Donc, on va continuer. Donc, là, sur la quatrième tentation, vous en avez beaucoup de tentations ou pas? Alors, le titre des paragraphes 87 à 92, ça fait un petit paquet, c'est « Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ ». Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ, numéro 87. Alors, je ne vous lis pas tout, mais le pape est très attaché au thème de la fraternité. Depuis le début de son pontificat, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est aussi pour ça qu'il a choisi Saint François comme saint patron, Saint François d'Assise, le frère universel en quelque sorte. Au premier message, vous savez qu'il y a un message du pape tous les 1er janvier pour la paix. Alors le premier en 2014, c'était la fraternité, fondement et route pour la paix. Alors voilà ce qu'il disait au mois d'octobre 2015, donc récemment. Alors ça se réfère, me semble-t-il, justement à l'accueil de tous ceux qui doivent émigrer parce que il y a la guerre dans leur pays. Je pense à tous ces enfants affamés, abandonnés, exploités, poussés à la guerre, rejetés. Quelle souffrance les images de tous ces enfants malheureux, le regard perdu, fuyant la pauvreté et les conflits qui frappent à nos portes et à nos cœurs pour implorer notre aide. Que le Seigneur nous aide à ne pas être une société forteresse, mais une société famille, capable d'accueillir avec des règles appropriées, mais d'accueillir toujours avec amour. Voilà, alors ça donc la fraternité, c'est un thème qui revient beaucoup chez le pape François. Un autre... Alors là, il parlait à des jeunes, à des séminaristes et des novices en 2013. Et il montrait aussi, et je pense que c'est notre expérience aussi, quand on vit vraiment de cette fraternité, il y a une joie aussi qui nous est donnée. Et alors, vous connaissez l'épisode de la joie parfaite avec Saint François d'Assise ? Juste en deux mots, parce que ce n'est pas le sujet, mais... un jour, Saint François est avec frère Léon, ils vont vers Assise, et Saint François pose la question au frère Léon, mais qu'est-ce que la joie parfaite? Alors Saint François lui dit, mais même si tous les cardinaux entraient dans l'ordre, tout ça, ce serait pas ça, c'est pas ça la joie parfaite. Ou même si je parlais toutes les langues du monde et tout ça, c'est pas ça. Et après, il termine en disant, mais si j'arrive au monastère, là, chez mes frères, et qu'ils ne me reconnaissent pas, qu'ils me laissent dehors, alors que je suis transit froid et tout ça, mais si je vis ça dans la paix du cœur, alors c'est ça la joie parfaite. Bon, je synthétise un peu. Mais alors, le pape François fait un peu la même chose par rapport à la joie. Et donc, il parle à des jeunes... Il leur pose la question, où naît la joie? Alors, où naît la joie? Alors, samedi soir, je rentre à la maison et j'irai danser avec mes vieux amis. C'est de là que naît la joie? Certains diront, la joie naît des choses que l'on possède. Et alors, nous voici à la recherche du dernier modèle de smartphone, du scooter le plus rapide, de la voiture qui se fera remarquer. La joie ne vient pas de ce que l'on possède. D'autres disent que cela vient des expériences les plus extrêmes pour éprouver la griserie des sensations fortes. La jeunesse aime être sur le fil du rasoir, elle aime vraiment cela. C'est ça la joie ? D'autres... oui. Pour d'autres encore, cela vient des vêtements les plus à la mode, des distractions dans les lieux les plus en vogue. D'autres encore diront du succès auprès des, filles ou des garçons. Pardon. Ou des garçons, en passant peut-être de l'une à l'autre, ou de l'un à l'autre. C'est l'insécurité de l'amour, qui n'est pas sûr, c'est l'amour à l'essai. Nous savons que tout ceci peut satisfaire un certain désir, mais bon, c'est pas la joie. Alors, d'où vient la vraie joie? La vraie joie ne vient pas des choses, du fait que l'on possède, non. Elle naît de la rencontre, de la relation avec les autres. Elle naît du fait de se sentir accepté, compris, aimé, et du fait d'accepter, de comprendre et d'aimer. Et ceci non pas pour un moment, mais parce que l'autre est une personne. La joie naît de la gratuité d'une rencontre. C'est de s'entendre dire « tu es important pour moi », pas nécessairement avec des paroles. Et c'est précisément cela que Dieu nous fait comprendre. C'est de là que naît la joie. La joie du moment où Dieu m'a regardé. Comprendre et sentir cela, voilà le secret de notre joie. Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour lui nous ne sommes pas des numéros mais des personnes, et sentir que c'est lui qui nous appelle. Voilà. Alors il parlait à des séminaristes, du coup cette dernière phrase c'est peut-être plus particulièrement adressée à eux, mais voilà, la vraie joie ne vient pas des choses, elle naît de la rencontre, de la relation avec les autres. Alors ça, c'est quelque chose qui revient souvent sous la plume du pape François, ou en tout cas sur ses lèvres. Alors je pensais à deux autres choses dans tout ce thème de la fraternité. Une dont le pape François ne parle pas explicitement, mais je pense que ça va dans le sens de ce qu'il dit. Ça va tout à fait dans sa perspective. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé des signes de reconnaissance, non ? Non. Alors bon, c'est quelque chose qui m'a interpellé. C'est tout simple, hein, mais ça va dans cette perspective du pape François qui dit de ne pas rester indifférents les uns aux autres, cette importance de la rencontre. Alors, il y a des signes de reconnaissance positifs et des signes de reconnaissance négatifs. De dire que l'époux dise à son épouse « Oh, tu es belle, ma chérie », alors ça, c'est un signe de reconnaissance positif, évidemment. Et ça touche plutôt l'être même de la personne. Alors, c'est plutôt bien, hein? Je pense que vous êtes d'accord. Et puis, alors, après, il y a des signes de reconnaissance positifs, mais qui touchent plutôt au faire, à... Donc, c'est pas exactement au même niveau. Tu as bien réussi ta cuisine, mettons. Imaginons ça. Hein, voilà, alors ça, c'est un signe de reconnaissance positif, mais bon, pas au même niveau. Après, il y a des signes de reconnaissance négatifs, la même chose. Tu es complètement nul. Ça, c'est complètement négatif et ça touche vraiment l'être de la personne. De dire « Ah, t'as pas très bien réussi aujourd'hui », bon, c'est négatif, mais ça touche pas l'être de la personne sur ce qu'elle a fait. Bon. Alors ça, c'est une chose. Donc, tant qu'à faire, il vaut mieux des signes de reconnaissance dans le sens positif que négatif. Mais là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il va encore mieux à la limite des signes de reconnaissance que pas de signes de reconnaissance du tout. L'absence de signes de reconnaissance, c'est encore pire que d'avoir des signes négatifs. Alors, si possible, quand même pas négatifs quant à notre être. Et je vois que, alors c'est vrai en communauté, mais c'est vrai en famille quelquefois, d'avoir l'impression d'être transparent, qu'on soit là ou qu'on ne soit pas là, finalement, on ne sait pas si l'autre s'en apercevrait. Si les choses n'étaient pas faites, oui. mais nous, pas pour ce qu'on fait, mais pour ce qu'on est. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas si évident. Parce que partout, on a besoin de ces signes de reconnaissance. Mais alors, je vous le dis parce que je pense, même si le pape François n'en parle pas comme ça, je pense que ça va tout à fait dans ce qu'il nous dit aussi. On a la joie née de la rencontre. Mais une première manière de se rencontrer, c'est déjà de se rendre compte que l'autre est là. Hein? Et on voit que finalement. On a beaucoup, beaucoup besoin de... C'est quelque chose, on n'est pas très bon sur les signes de reconnaissance. Alors en communauté, on essaie, tant bien que mal, mais on essaie de mieux le vivre. C'est un petit point, mais de faire un peu plus attention aux uns aux autres. Mais ça change beaucoup de choses après. Parce que quand on nous remarque pas juste le jour où on veut nous faire une remarque, mais qu'au quotidien, ben voilà, je prends un détail bête, mais tous les matins, on prépare le petit déjeuner. Là, à tour de rôle, donc on s'inscrit, puis voilà. Alors bien sûr, si y a un frère qui oublie de préparer le petit déjeuner, habituellement il est au courant. On arrive tout est froid, voilà. Mais alors ça, on sait le dire. Mais s'il a préparé, dire un petit merci. Merci, c'est pas grand chose, mais c'est un signe de reconnaissance. C'est des choses élémentaires, mais c'est tellement élémentaire qu'on les oublie. Alors que ça met beaucoup d'huile dans les rouages, les signes de reconnaissance. Et je pense que, bon, alors je vous le dis au passage, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Mais le pape François va plus loin, il invite à vivre la révolution de la tendresse. Alors il disait ça à Cuba en septembre dernier, je vous lis quelques passages. Nous sommes invités à vivre la révolution de la tendresse comme Marie, mère de la charité. Nous sommes invités à sortir de chez nous, à avoir les yeux et le cœur ouverts aux autres. Notre révolution passe par la tendresse, par la joie qui se fait toujours proximité, qui se fait toujours compassion et nous conduit à nous impliquer pour servir dans la vie des autres. Notre foi nous fait sortir de chez nous pour aller à la rencontre des autres, afin de partager joie et allégresse, espérance et frustration. Comme Marie, nous voulons être une église qui sache accompagner toutes les situations embarrassantes des personnes qui nous entourent, engagées dans la vie, la culture, la société, non pas en nous retirant, mais en cheminant avec nos frères. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent chez le pape François, c'est quand il y a des gens qui sont dans une situation un peu difficile, quelquefois on ne sait pas trop quoi faire, du coup on se retire Voilà, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il dit justement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être présent. Alors après, on est un peu pâteau, on ne sait pas forcément très bien ce qu'il faut faire, mais d'être là quand même. Et on n'a pas forcément de solution à apporter, mais on est là quand même. Et toutes les situations embarrassantes. On préférait qu'il n'y ait pas de situation embarrassante, mais de fait, c'est comme ça. Et du coup, pas s'éloigner de ces situations embarrassantes. Je crois que le pape François a ça très très à cœur. Donc ça c'est tout le... Donc il développe pas mal ça dans le... cette quatrième tentation qui est regroupée sous ce titre « Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus-Christ ». Donc dedans il parle beaucoup de la fraternité, il parle de toujours dépasser le soupçon, le manque de confiance permanent. Il parle aussi... Certains voudraient un Christ purement spirituel, sans chair ni croix. De même, ils visent des relations interpersonnelles seulement à travers des appareils sophistiqués, des écrans et des systèmes qu'on peut mettre en marche ou arrêter sur commande. Voilà. Mais lui, il n'est pas trop dans cette veine-là. Il préfère rencontrer les gens en direct. Mais dépasser le soupçon. La bienveillance, c'est aussi c'est une volonté. Ça ne vient pas spontanément, la bienveillance. Mais vis-à-vis des autres, justement, pas se laisser guider par le soupçon, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses difficiles. Mais sinon, on met déjà une barrière entre nous et les autres avant même de les rencontrer. Et la fraternité. Alors, il ne s'agit pas non plus d'être complètement naïf. Mais si on met déjà un filtre tellement protecteur qu'on ne sera jamais atteint par l'autre, mais voilà, ça nous protège. Mais pendant ce temps-là, on ne rencontre pas vraiment l'autre. Alors le pape François est sensible à l'isolement. chacun qui a tendance à se refermer sur lui-même, et voilà. Alors qu'on a besoin justement de la révolution, de la tendresse. Toujours dans ces paragraphes, il insiste sur la relation personnelle, non pas avec des énergies qui harmonisent, mais avec Dieu. Ça peut être dans un courant, une forme de spiritualité, on pourrait dire, où voilà, on va être en communion avec Dieu, mais justement, le pape François nous est très attentif au fait de dire que notre communion avec Dieu, elle passe par des gens, des pauvres aussi. Sinon, on peut se faire beaucoup de... Je vous lis quand même quelques lignes, mais après je ne vous lis pas tout parce que sinon on n'en sort pas. Il est nécessaire d'aider à reconnaître que l'unique voie consiste dans le fait d'apprendre à rencontrer les autres en adoptant le comportement juste, en les appréciant et en les acceptant comme des compagnons de route sans résistance intérieure. Mieux encore, il s'agit d'apprendre à découvrir Jésus dans le visage des autres, dans leur voix, dans leurs demandes. C'est aussi apprendre à souffrir en embrassant Jésus crucifié quand nous subissons des agressions injustes ou des ingratitudes, sans jamais nous lasser de choisir la fraternité. Donc ça, c'était la quatrième tentation, c'est de s'isoler. Et du coup, pendant qu'on s'isole, on n'évangélise pas. Mais l'évangélisation, ça suppose de rencontrer les autres. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont déjà fait, il y a d'autres formes d'évangélisation, mais dans la rue, c'est assez intéressant. Celles qui veulent, donc la veille des rameaux, on évangélise un petit peu à Compiègne, là, près de. Donc vous êtes invités, c'est celles qui veulent. Mais l'évangélisation, ça passe par une rencontre. On n'assène pas les vérités de la foi catholique. Et puis, non, ce n'est pas sur des idées qu'on rencontre l'autre. C'est au sein d'une rencontre, on parle du Dieu, d'un Dieu vivant, pas d'un Dieu en idées et en dogmes, même s'il y a des dogmes, je ne renie pas du tout les dogmes. Mais ça passe à travers une rencontre. Voilà. Alors, cinquième tentation, alors là, et il y insiste tout le temps, le pape. C'est non à la mondanité spirituelle. Il a des paroles qui ne sont pas toujours très tendres. Alors là, c'est des paragraphes 93 à 97. Alors, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'évoque pour vous cette expression mondanité spirituelle? Alors, cette idée, l'expression vient. Alors, il l'a lu chez le cardinal de Lubac. Vous connaissez un peu le cardinal de Lubac, peut-être pas beaucoup, un petit peu. Mais non, c'est un jésuite aussi qui a été. Alors, il a vécu des moments un peu difficiles parce que dans sa réflexion, à un moment, il a pu le droit, l'Église lui a retiré le droit d'enseigner. Mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait une profondeur spirituelle. C'est justement à cette période qu'il a rédigé des méditations sur l'Église. Et en fait, il le faisait par amour pour l'Église aussi. Donc, après, il a été réhabilité en quelque sorte, et du coup on l'a créé cardinal pour montrer que vraiment son enseignement mais bon, il s'est passé quand même un certain nombre d'années entre le moment. Donc il a voilà, mais il l'a vécu et alors il parle de, donc il a repris lui-même a repris cette expression de mondanité spirituelle, un bénédictin anglais, allemand naturalisé anglais. Donc vous connaissez, dont Vaunier, c'est certainement sur dans vos étagères. Hein, bon. Alors, ce fameux bénédictin remarque que l'Église atteint dans l'histoire beaucoup de résultats humains. Elle conquiert aussi beaucoup de gloire temporelle. Elle construit de splendides églises, elle aide les pauvres, elle aide les malades. Quelquefois, le monde la persécute, mais d'autres fois, il applaudit ses excellences de l'Église. Alors, on en a parlé au tout début, c'est bien aussi de montrer ce qui est beau et tout ça. Mais il y a un danger. Et là réside le danger de la mondanité. Et par mondanité, à ce moment-là, il ne parle pas de l'amour des richesses et le luxe de quelques-uns de ses dignitaires. Quelquefois, on en parle dans les journaux. Alors, bien sûr, ça, c'est mauvais, mais ce n'est pas le mal le plus terrible. Parce que cette mondanité spirituelle, quelque part, elle est... Il y en a qui, justement, qui ne sont pas du tout mondains matériellement parlant, qui vivent peut-être très pauvres, mais qui sont pires, en un sens. C'est plus insidieux. Parce qu'ils veulent donner l'exemple d'une morale particulièrement élevée. Mais ces normes morales ne sont pas basées sur la gloire de Dieu, mais sur le profit de l'homme. Un regard complètement anthropocentrique serait exactement ce que nous entendons par mondanité. Même si les hommes étaient remplis de toutes les perfections spirituelles, mais que ces perfections ne se réfèrent pas à Dieu, en supposant que ce soit possible, il s'agirait d'une mondanité incapable de rédemption. Il s'agit encore une fois de mondanité spirituelle et pas seulement morale, car à la fin, cette même spiritualité se corrompt, transformée par la mondanité de l'esprit en une spiritualité de l'homme et non de Dieu. Alors je trouve que c'était intéressant de revenir un petit peu pour comprendre un petit peu, quand il parle de mondanité spirituelle, quelquefois mondanité, on pense à ce que Jésus dit, qui sont bien habillés ou je ne sais pas, ou qui cherchent les premières places, mais quelque part c'est plus profond que ça, cette mondanité à laquelle s'attaque le pape. Et Don Vonnier continue. Si le christianisme devait jamais s'abaisser au niveau d'une société éthique parfaite, dont le seul but était la promotion de la prospérité humaine, ou même la promotion de la moralité humaine, l'Église serait ainsi complètement apostate, comme l'est Lucifer lui-même. Elle aurait nié l'esprit, elle aurait refusé de le suivre là où il veut la conduire, elle aurait préféré plaire aux hommes plutôt qu'au Christ, et aurait fait de l'applaudissement des hommes sa récompense suprême. Là, c'est des paroles assez dures quand même. Mais alors le pape, voilà, c'est quelque chose qui il revient constamment. Hein. Si on savait le nombre de fois où il a prononcé cette expression depuis qu'il est pape, voilà. Je prends juste quelques passages par-ci par-là. Il en parlait déjà quand il était cardinal à Buenos Aires. Un journaliste qui lui posait la question « Pour vous, quelle est la pire des choses qui puisse arriver à l'Église ?» Alors il disait « C'est la mondanité spirituelle. » Et la mondanité spirituelle, c'est se mettre au centre. À ce moment-là, c'est plus Dieu qui est au centre, c'est nous qui sommes au centre. Vous avez entendu parler de la révolution copernicienne. On pensait que c'était le soleil qui tournait autour de la Terre. Non, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais nous, vis-à-vis de Dieu, on fait quelquefois la même chose. On fait tourner Dieu autour de nos besoins, autour de... Voilà. Mais c'est nous qui sommes au centre. Et Dieu est à notre service, en quelque sorte. Alors que c'est le contraire. Il faut faire cette révolution copernicienne. C'est nous qui sommes invités à graviter autour de Dieu, et pas l'inverse. Et alors, le pape fait ce lien entre ce fait de cette mondanité spirituelle et le fait de l'évangélisation. Je ne sais pas si... il disait, alors ça, il le disait juste avant le conclave, qu'il a élu pape, une église qui n'évangélise pas verse dans une vie mondaine pour elle-même. Du coup... il dit de multiples façons, il préfère une église accidentée, tout ça, sale, parce qu'elle est sortie sur les chemins, même si elle a pris des risques, même si de temps en temps elle est abîmée. Il préfère ça qu'une église parfaite, mais dans une atmosphère confinée, parce que voilà, surtout on ne veut pas prendre de risques. Encore une autre citation, mais il y en aurait des dizaines. Hein. Céder à l'esprit du monde pousse à agir pour sa propre réalisation et non pour la gloire de Dieu. C'est une sorte de confort bourgeois de l'esprit et de l'existence qui nous pousse à nous adapter afin de nous octroyer une vie conforme et paisible. Et alors, du coup, il ne veut pas qu'on mette l'Église et ses représentants, sa logique institutionnelle et ses discours au centre de tout. Alors, dans ces paragraphes, il s'attaque de façon très... bon, c'est pas tendre, à l'intégrisme et à l'anthropocentrisme, à la fois les deux. D'un côté, c'est... voilà, on veut faire la volonté de Dieu, que Dieu le veuille ou non. Quelque part, il y a une manière d'un petit peu enfermer Dieu dans nos idées. Et de l'autre côté, il y a une manière où on met vraiment l'homme au centre de tout, alors que c'est le Christ qui doit toujours être au centre de tout, et pas l'homme. Alors, il l'exprime avec des images. Vous connaissez l'image du gâteau avec la crème ? Alors, ça, c'était à l'Angélus en 2013, 19 août. La foi n'est pas une chose décorative, ornementale. Vivre la foi n'est pas décorer la vie avec un peu de religion, comme on décore un gâteau avec de la crème. La foi implique de choisir Dieu comme critère base de la vie. Jésus pose le critère vivre pour soi-même ou vivre pour Dieu et pour les autres. C'est toujours, est-ce que c'est pour Dieu ou c'est pour moi? Est-ce que je suis au centre ou est-ce que c'est Dieu qui est au centre? Est-ce que c'est Jésus qui est vraiment au centre ou est-ce que c'est moi avec mes besoins, mes désirs, Alors, il le disait aussi d'une autre manière. Nous pouvons faire un christianisme un peu plus humain, sans croix, sans Jésus, sans dépouillement, et nous deviendrons des chrétiens de pâtisserie, une belle tarte, quelque chose de très doux, mais pas de vrai chrétien. Voilà. Mais de quoi l'Église doit-elle se dépouiller ? D'un danger très grave qui menace toute personne dans l'Église, le péril de la mondanité. Elle nous porte à la vanité, au sentiment de supériorité, à l'orgueil. C'est une idole, ce n'est pas Dieu. Donc, voulez-vous être des chrétiens de pâtisserie ? L'un des expressions. Voilà. Et alors, du coup, la mondanité, c'est, pour remédier à cette mondanité, c'est de se décentrer. Soit vraiment... Et se décentrer, ça passe par sortir de soi. On sent à travers ça un peu une cohérence dans la pensée du pape François. Si l'appel à sortir aux périphéries, c'est justement pour ne pas rester centré sur nous-mêmes, parce que ce n'est pas nous qui sommes le centre. Alors là aussi, c'était très présent dans son discours avant le conclave. Voilà. Quand l'Église ne sort pas pour évangéliser, elle devient autoréférentielle. C'est un mot auquel on n'est pas très habitué, mais qui prononce souvent, hein, autoréférentiel, on sent bien ça, et tombe malade. Les mots qui, au fil des temps, frappent les institutions ecclésiastiques sont l'autoréférentialité, une sorte de narcissisme théologique. L'Église autoréférentielle prétend retenir le Christ à l'intérieur d'elle-même et ne le fait pas sortir. Quand l'Église est autoréférentielle, vous connaîtrez le mot, elle croit avoir la lumière, une lumière qui lui est propre. C'est un mal très grave dont on connaît le nom, la spiritualité mondaine. L'Église mondaine vit repliée sur elle-même et pour elle-même. Encore quelques petites choses. Alors, toujours les images du pape François. Ça, c'était au JMJ à Rio. Ne passez pas la foi au mixeur. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ? La croix continue à faire scandale, Mais c'est l'unique chemin sûr, celui de la croix, celui de Jésus, celui de l'incarnation de Jésus. S'il vous plaît, ne passez pas au mixeur la foi en Jésus-Christ. Il y a le mixé d'orange, il y a le mixé de pomme, il y a le mixé de banane. Mais s'il vous plaît, ne buvez pas le mixé de foi. La foi est entière, elle ne se passe pas au mixeur. C'est la foi en Jésus, c'est la foi dans le Fils de Dieu fait homme qui m'a aimé et est mort pour moi. Ne passez pas au mixeur la foi en Jésus-Christ. Alors, donc, sinon, voilà, on adapte les choses, mais c'est lui qui est le centre. Et nous, on s'ajuste à lui. Et alors, il a un effet de cette mondanité, cette spiritualité mondaine, cette mondanité spirituelle, c'est qu'elle anesthésie l'âme. Et alors, il commentait, c'était il y a un an, le 5 mars 2015, vous connaissez tous ce passage de l'Évangile avec le mauvais riche, celui qu'on appelle le mauvais riche et le pauvre Lazare. Le mauvais riche, en un sens, on ne sait pas s'il faisait quelque chose de mal. Seulement, il ne voyait pas le pauvre à sa porte, c'est ça qu'on lui reproche. Et alors, voilà comment il l'exprime. Je vous lis, c'est un peu long, ça ne vous gêne pas, mais bon, Alors, le mauvais riche, un homme vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Peut-être était-il un homme religieux à sa façon, peut-être priait-il 2 ou 3 fois par an, il se rendait sûrement au temple pour faire des sacrifices et donner de belles offrandes aux prêtres, et ces derniers, avec leur pusillanimité cléricale, le remerciaient et le faisaient asseoir à la place d'honneur. Mais il ne se rendait pas compte qu'à sa porte, il y avait un mendiant, Lazare, avec tant de douleur, symbole de tout ce dont il avait besoin. Lorsqu'il sortait de chez lui, peut-être que la voiture avec laquelle il sortait avait des vitres teintées pour ne pas voir dehors, peut-être, je ne sais pas. Mais il est sûr que son âme, les yeux de son âme, étaient assombris pour ne pas voir. Il voyait seulement sa vie et ne se rendait pas compte que de ce qui était arrivé à cet homme. Il n'était pas méchant, il était malade, malade de mondanité. Et la mondanité transforme les âmes, fait perdre la conscience de la réalité. Ils vivent dans un monde artificiel construit par eux. La mondanité anesthésie l'âme. C'est pour cela que cet homme mondain n'était pas capable de voir la réalité de nombreux pauvres qui vivent à nos côtés. De nombreuses personnes vivent une vie difficile, mais si j'ai un cœur mondain, je ne le comprendrai jamais. Avec un cœur mondain, on ne peut pas comprendre la nécessité et le besoin des autres. C'est un péché subtil et plus qu'un péché, c'est un état d'âme pécheur. Alors, c'est des paroles assez fortes, hein, vous voyez, mais qui nous remettent en question tous, hein, à notre manière. Mais voilà, alors... le pape François revient sans cesse sur cette mondanité, donc vous comprenez bien, c'est le fait d'être centré sur soi, et du coup on voit pas, on se regarde tellement le nombril qu'on ne voit pas l'autre qui est à côté de nous. Voilà. Sixième tentation, c'est les guerres entre nous. Et le titre de ces paragraphes, c'est non à la guerre entre nous. Non, je ne vous lis pas tout, vous pourrez le loin de là. Hein. Là, il y aurait toute une... Mais je vous laisse le soin de lire. Alors, c'est toujours aussi dans une perspective d'évangélisation. C'est l'assiette, vous commencez à vous endormir, je vous endors, non, ça va. Vous voulez vous lever, danser, je ne sais pas. Non. Bon, alors, non à la guerre entre nous. Donc c'est toujours dans une perspective d'évangélisation. Il dit si, et c'est vrai, si dans une paroisse, une communauté, on se tire dessus les uns sur les autres, vous croyez que ça sera très attirant pour les autres s'ils voient que vous vous entretuez entre vous, ils ne voudront pas rentrer dans le panier de crabe. Ainsi, c'est ça notre... quelquefois, c'est un petit peu ça nos communautés, nos paroisses, nos familles. Ça peut quelquefois, rarement, mais quelquefois. Alors, voilà ce que dit le pape. Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez. Et il cite Jésus, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Alors c'est quelque chose qui il tient beaucoup et je crois que c'est vrai. Hein, alors il nous invite justement à pardonner, à nous réconcilier. Alors je vous encore une phrase. Cela me fait très mal de voir comment dans certaines communautés chrétiennes et même entre personnes consacrées, oh là. On donne de la place à diverses formes de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d'imposer ses propres idées à n'importe quel prix, jusqu'à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements ? Il n'y va pas. Alors, inversement, demandons au Seigneur de nous faire comprendre cette loi de l'amour, qu'il est bon de posséder cette loi. Comme cela nous fait du bien de nous aimer les uns les autres au-delà de tout. Oui, au-delà de tout. À chacun de nous est adressée l'exhortation paulinienne. Ne te laisse pas vaincre par le mal, sois vainqueur du mal par le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous laissons pas voler l'idéal de l'amour fraternel. Alors, je ne vous lis pas tout, hein, mais ça, vous pourrez lire. Mais je voulais retenir quelques points. 5 comme les doigts de la main. Qui va dans... Parce qu'il y a des choses qui sont récurrentes. Le pape parle souvent de la médisance et des méfaits de la médisance. Les commérages blessent. Ils représentent des gifles à la réputation de telle ou telle personne. Ce sont des gifles portées au cœur de l'autre. Autre image. Le bavardage, le commérage, c'est aussi du terrorisme. Parce que celui qui bavarde jette une bombe sur la réputation de l'autre et détruit l'autre qui ne peut pas se défendre. Parce qu'on bavarde toujours dans l'obscurité, pas dans la lumière. Et l'obscurité est le royaume du diable. La lumière est le royaume de Jésus. Si tu as quelque chose contre ton frère, va, prie d'abord, apaise ton âme, et ensuite va le lui dire à lui et à elle. Je ne suis pas d'accord sur ce point. Mais jamais... Ne jamais jeter la bombe des bavardages, jamais, jamais. Ça. Donc, on est des terroristes quand on... Alors, donc, je voulais dire un mot sur la médisance, un deuxième mot sur les tensions. Alors là, il parlait à des jeunes en juillet 2015. Que serait une société, une famille, un groupe d'amis sans tension et sans conflit? Savez-vous ce que ce serait? Vous savez? Un cimetière. Il n'y a que là où il n'y a plus de tension. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la... Quand il y a de la vie, il y a des tensions et il y a des conflits. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de développer ce concept et de chercher dans ma vie quelles sont les véritables tensions. Comment viennent ces tensions? Parce que ce sont des tensions qui disent que je suis vivant. Et comment sont ces conflits? Mais c'est seulement au paradis qu'il n'y en aura pas. Nous serons tous unis dans la paix avec Jésus-Christ. Les tensions te font grandir, elles développent ton courage. Et un jeune doit avoir cette vertu du courage. Un jeune sans courage, mais c'est un jeune dilué, c'est un jeune vieux. Parfois, j'ai envie de dire aux jeunes, s'il vous plaît, ne partez pas à la retraite. Hein. Parce qu'il y a des jeunes qui partent à la retraite à 20 ans. Ils ont toutes les sécurités dans la vie, tout tranquille, et ils n'ont pas de tension. Donc, alors après, je dirai un mot sur le dialogue. Et il dit, mais, alors il y a les tensions, et c'est normal qu'il y ait des tensions. C'est normal, c'est plutôt signe qu'on est vivant. Mais après, donc, il y a le dialogue qui est là pour essayer de résorber ces tensions, pour essayer de... Et puis après, il dit, mais cherchez pas non plus les tensions pour les tensions, hein, parce qu'il y en a... Ça, c'est quelqu'un d'un peu malade qui, s'il cherche toujours à être dans la tension, ça va pas trop. Donc, pas de parole de médisance, la bombe des bavardages, non. Après, accepter les tensions... Troisièmement, le dialogue. Alors voilà ce que disait le pape, toujours à ces mêmes jeunes. Quand dans une famille il y a un dialogue, quand dans une famille il y a cette capacité à dire spontanément ce qu'on pense, les tensions se résolvent bien. Résoudre les tensions par le dialogue, parce que le dialogue unit, que ce soit dans la famille ou dans un groupe d'amis, on trouve une route pour marcher ensemble sans perdre son identité. Alors pour dialoguer, il faut savoir avaler des couleuvres. Pour dialoguer, il faut être tout à tous. Alors ça, c'était dans une des homélies du matin. C'est ainsi que se construit la paix, par l'humilité, l'humiliation, cherchant toujours à voir l'image de Dieu dans l'autre. Et tout le monde sait que pour y arriver, il faut avaler des couleuvres. Le dialogue est difficile. Mais il est pire de s'isoler dans le jus amer du ressentiment. Le cœur peut devenir comme Berlin avec un mur dressé contre les autres, et quand les murs se dressent, la réconciliation est très difficile, car il favorise le ressentiment et la haine. Voilà le dialogue. Alors c'est quelquefois difficile, hein, Il y a des camemberts dans vos placards ou pas? Quelquefois, on ne sait pas trop très bien ce qu'on doit faire. Hein. Quand il y a une situation un peu tendue, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut sans doute prendre un peu de temps pour prier, pour être un peu plus apaisé, mais c'est important de sortir les camemberts du placard aussi. Pas toujours très simple, parce que bon, mais ça suppose un peu de précaution pour les sortir, pour pas être violent. Et en communauté, c'est pareil. Enfin, je ne vais pas tout vous dire, sinon vous n'oserez plus revenir. Mais on vit des beaux moments. Il y a quelques jours, c'est pas très vieux. Hein. Non, il n'y a vraiment pas beaucoup de jours. Il y avait une situation un peu... Il y avait un camembert, on va dire ça comme ça. Et alors, un frère s'est hasardé à commencer à le sortir du placard. Mais c'était très, très bien. C'était très, très bien. Et alors, du coup aussi, en pouvant... échanger un peu avec les uns et les autres. On a pu le sortir et puis assainir la chose. Mais c'était quelque chose de bien, mais j'étais pas très fier. Je m'étais dit, c'est un peu qui tout double quand même. Quand on sort le camembert du placard, il faut quand même bien préparer son coup, que ça ne va pas pire que mieux. Hein, quelquefois, quand il y a une situation qui est un peu tendue, on sait, enfin je vous dis les choses comme... on ne sait pas toujours très bien, on se dit, mais c'est ce que... Alors, on sent que ça serait quand même... De toute façon, tout le monde est d'accord sur le fait qu'assainir les choses, c'est bien, mais comment s'y prendre, on ne sait pas toujours très, très bien. Alors, ça vaut la peine de prendre le temps d'y réfléchir, de demander conseil quelquefois, de voilà. Mais l'idéal, c'est de pouvoir vraiment tout sortir et tout assainir. Alors ça ferait du bien, et on sent la joie qui revient. Et donc voilà, c'est le dialogue est difficile, mais il est pire de s'isoler dans le jus amer du ressentiment. Enfin, je crois que c'est tout à fait ça. C'est pas toujours très simple d'arriver à un dialogue. Et alors quelquefois, quand il y a une tierce personne, ça peut aider. Enfin bon, après, toutes les situations sont différentes, mais voilà, mais c'est quand même très précieux de pouvoir dialoguer. Toujours dans la communauté, ça fait plus de 35 ans que je suis dans la communauté, toujours quand il y avait un espace de dialogue, on a toujours pu résoudre les choses et puis continuer à avancer, même s'il y a des passages un peu délicats, mais on arrive toujours. Mais au moment où il n'y a plus de dialogue, alors là, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué parce qu'on ne peut pas résorber une tension tant qu'on dialogue. Au contraire, avec l'imagination qui travaille, tout ça, les choses ne feront que s'envenimer. Bon, après, il faut que tous les partenaires soient partants, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas. Mais du coup, il y a des tierces personnes qui peuvent aider, qui facilitent, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, mettre plutôt de l'huile dans les rouages. Donc, ça, c'est important. On peut vraiment aider. Quelquefois, il y a des bons amis qui mettent de l'huile dans les rouages et du coup, qui permettent de, voilà. Et il y a des amis, c'est pas des amis, c'est qui mettent plutôt de l'huile sur le feu et qui font qu'envenimer les situations. On connaît tout ça. Alors ça, c'est pas des amis. Parce que l'ami, il cherche la paix, il cherche à résorber les tensions, pas à exacerber les tensions. Bon, après, on fait comme on peut. Bon, alors, j'aborde, après les temps, le dialogue, la correction fraternelle. Il y avait un père dominicain, je crois, qui avait écrit ça, un très connu, je crois que c'est le père Sertillange, parce que le saint Thomas d'Aquin en parle dans la Somme théologique de la correction fraternelle, et il dit que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment un acte de charité, voilà. Et en marge, à ne pas faire, j'ai essayé, ça s'est mal passé, j'avais mis en marge. Mais si, il faut le faire, alors après, on fait comme on peut, mais... Alors, le pape en parle. Alors, dans une homélie en septembre 2014, il en avait parlé. Et voilà. Et il commentait à ce moment-là le passage de la paille et de la poutre. Et il disait, il faut corriger notre prochain avec charité. Et il prend une belle image, il dit, mais... Sinon, s'il n'y a pas la charité, c'est comme si vous faisiez une opération sans anesthésie. L'autre, il va hurler de douleur et puis ça se passera sans doute pas très bien. Alors, mais si c'est avec charité, l'opération se passera un peu mieux. Parce que la vérité, ce n'est pas toujours facile à entendre. On le sait, on n'aime pas trop qu'on nous dise ce qu'on nous reproche, nos travers, nos... Mais si cette vérité est dite avec charité, avec amour, c'est plus facile de l'accepter. Alors, charité, mais aussi humilité. Si tu dois corriger un petit défaut chez l'autre, pense tout d'abord que tu en as personnellement de tellement plus gros. Il y a un signe qui peut nous aider, a ajouté le pape, c'est le fait de ressentir un certain plaisir. Alors justement, si on ressent ce plaisir, c'est que de corriger l'autre, c'est que peut-être ce n'est pas la charité qui nous conduit. Un certain plaisir quand on voit quelque chose qui ne va pas et qu'on estime qu'il nous faut exercer une correction. Alors là, ça ne vient pas du Seigneur. Quand cela vient du Seigneur, il y a toujours la croix. Et l'amour nous porte la douceur. Ne nous transformons pas en juges. Nous, chrétiens, nous avons cette fâcheuse tentation, nous extraire du jeu du péché et de la grâce comme si nous étions des anges. Eh bien non. C'est ce que Paul nous dit. Il ne faut pas qu'après avoir prêché aux autres, nous soyons ensuite disqualifiés. Et si un chrétien dans sa communauté ne fait pas les choses, également la correction fraternelle, dans la charité, en vérité avec humilité, il est disqualifié. Il est tout sauf un chrétien mature. Prions donc afin que les cieux nous aident à exercer ce service fraternel si beau mais si douloureux, d'aider nos frères et nos sœurs à devenir meilleurs, et qu'ils nous aident à le faire toujours avec charité, en vérité, avec humilité. Alors, on essaie de la vivre en communauté, cette correction fraternelle. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais quand on... Ça demande de se préparer hein, avant de faire la correction. Ce n'est pas l'autre m'énerve, je lui vole dans les plumes. Ce n'est pas ça la correction fraternelle. Mais en essayant de voir qu'est-ce qui sera bon pour l'autre aussi. Et quand on fait la correction fraternelle, ce n'est pas le moment où on lui ressort tout l'inventaire de ce dont on a souffert de sa part depuis des années. Sinon, non, ça, ce n'est pas la correction fraternelle. Mais on vise un point qui fait difficulté. Et on essaie de comprendre pourquoi ça fait difficulté. Et on n'est pas comme de chaque côté d'un filet où on se renvoie la balle. On est du même côté parce qu'on est dans la même barque et on veut avancer ensemble. C'est dans la manière de se positionner, c'est très différent. On n'est pas comme le juge et puis l'autre, il est au banc des accusés. Non, on est des deux côtés et fraternellement, je veux qu'on arrive tous les deux au ciel, au bout du compte. Et pour ça, je dis à l'autre aussi ce qui est difficile, pas forcément vis-à-vis de moi, ça peut être vis-à-vis de... C'est quelquefois plus facile, en un sens, d'une tierce personne, parce qu'on n'est pas directement concerné. Du coup, on peut dire les choses quelquefois avec plus de recul, d'objectivité, moins sans que les nerfs soient à fleur de peau. Ou, voilà. Mais c'est très important. Sinon, la communauté, elle avance jamais et on reste dans nos... Ça, c'est une grâce, je crois, de vivre en communauté. C'est que, quelquefois, quand on vit seul, à la limite, on n'a personne pour nous dire des choses que tout le monde remarque, mais personne ne le dit. Et ça peut, hélas, quelquefois arriver en communauté, mais c'est, à ce moment-là, elle ne remplit pas son office, la communauté. Parce qu'on est là pour s'aider, et puis pour dire aussi à l'autre, non, là, ça ne va pas. Mais pas le dire sous forme d'une condamnation, mais de dire, mais voilà, et puis, si je peux t'aider d'une manière ou d'une autre, moi, je ne suis pas parfait non plus, donc... Mais on a aussi les défauts de nos qualités. Donc, je ne vais pas prendre des exemples trop précis. Avec cet appareil, en plus. Bon. En tout cas, le but, c'est pour une église attrayante et lumineuse. Voilà, donc ça, c'est le but aussi de non à la guerre entre nous et d'avoir toujours ça en... Oui, parce qu'il y a un bien aussi, parce que de la communion fraternelle, c'est à ce signe que tous vous reconnaîtront pour mes disciples. Alors là, vraiment, il y a du bien qui se fait. Presque à notre insu, simplement parce qu'on s'entend, on s'aime fraternellement. Voilà. Alors après, autre défi ecclésiaux, il va falloir que je conclue. Alors là, on parle de la femme, donc je vais sauter. c'est le septièmement, alors il parle de défi ecclésiaux. Alors le premier, il parle plutôt du cléricalisme. Alors, ça peut être vrai en France, on l'a déjà évoqué une autre fois, je crois, mais c'est vrai aussi, c'est vrai particulièrement, je trouve, tel que j'ai vécu en Argentine, c'était beaucoup plus présent encore qu'ici. Voilà. Mais bon, je ne vais pas trop développer. Là, il parle de la femme et de la porte. Et il dit qu'il faudrait qu'on fasse avancer un peu les choses aussi par rapport à... Voilà, parce qu'on a besoin de l'attention féminine, et aussi des apports à la réflexion théologique de la femme. Alors, ceci dit, il dit assez clairement, bon, alors les hommes et les femmes ont la même dignité, voilà, le sacerdoce réservé aux hommes comme signe du Christ époux qui se livre dans l'Eucharistie est une question qui ne se discute pas. Donc, il propose pas d'ordonner les femmes. Hein. Mais peut devenir un motif de conflit particulier si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Il ne faut pas oublier que lorsque nous parlons de pouvoir sacerdotal, nous sommes dans le concept de la fonction, non de la dignité et de la sainteté. Le sacerdoce ministériel est un des moyens que Jésus utilise au service de son peuple. Mais la grande dignité vient du baptême, qui est accessible à tous. Dans l'Église, les fonctions ne justifient aucune supériorité des uns sur les autres. Et puis après, donc, il parle parmi ces défis, donc, il y a le cléricalisme, il y a la place de la femme, il y a aussi la place des jeunes. Et dedans, il dit entre autres que une des choses qui est intéressante, c'est que des progrès ont été réalisés dans deux domaines. Premier domaine, la conscience que toute la communauté les évangélise et les éduque. Et deuxièmement, l'urgence qu'ils soient davantage des protagonistes. Et de fait, on voit qu'il y a des mouvements de jeunes qui marchent par des jeunes, et ça c'est bien, leur faire confiance aux jeunes. Alors, ça n'empêche pas, bien sûr, qu'ils aient un lien avec l'Église, c'est évident, mais il y a des choses qu'ils savent faire, faire davantage confiance. Il encourage plutôt dans ce sens-là, le pape. Puis après, il parle des vocations. Puis je vais m'arrêter là, je crois. Je suis emmêlé dans mes papiers. Oui, non, ça suffit. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. S'il est trop tard, mais pas. Oui.
Il n'est pas direct, c'est une correction fraternelle indirecte.
Ah oui, alors, aussi une correction fraternelle un peu générale, dans le sens après. Mais la correction fraternelle aussi, c'est d'aller voir quelqu'un les yeux dans les yeux. Et puis. Mais on sent bien, vous l'avez vécu certainement, mais on sent bien, la personne le sent bien quand on ne va pas la voir comme juge parce qu'on veut régler un compte avec la personne. Mais voilà, il y a une difficulté. Voilà, il faut en parler. Et puis, du coup, c'est... Oui. Après, c'est un exercice délicat. Hein. Je suis tout à fait d'accord que c'est un exercice délicat. Mais après, mais ça vaut la peine de se lancer. Il faut vraiment, dans le sens, parce que petit à petit, on apprend. Alors, j'ai été prieur dans ma jeunesse. Je suis prieur depuis deux ans et demi maintenant, de nouveau. Alors, heureusement, j'ai vieilli entre les deux. Heureusement, enfin, pour une part, en tout cas. Et du coup, je pense que je m'y prends différemment de ce que je pouvais faire où j'étais peut-être beaucoup plus direct. Et je crois qu'il faut beaucoup de patience aussi quand on fait de la correction fraternelle. Alors là, quelque part, du fait de la fonction, je suis un peu obligé. Sinon, je... Et du coup, de monter au créneau, parce que bon, sinon, on évite, hein, on ne cherche pas forcément le conflit ou la confrontation. Hein. Mais bon, quand il faut, il faut. Alors, mais de ce fait, j'ai pu expérimenter diverses fois des moments où ça pouvait être un peu délicat. Et au contraire, alors, c'est plutôt moi qui ai été édifié par la réaction des frères. Parce que j'imagine volontiers que ce n'était pas très facile d'entendre ce que j'avais à leur dire. Je l'imaginais, alors je m'y préparais, je rédigeais comment je vais tourner ça, oh, prier avant, voilà. Mais au bout du compte, souvent quand on a fait la démarche, mais on n'y va pas avec... mais on est plutôt admiratif, alors j'ai des frères de bonne composition aussi, mais plutôt admiratif de la manière dont ils réagissent, parce que... On est des hommes, on est... C'est pas forcément... Bon, alors, on a tous choisi Jésus, qui est quand même déjà un point... Mais bon, il peut y avoir des points un peu délicats. Des points délicats. Après c'est aussi de ne pas... Quand on fait la correction fraternelle, ce n'est pas pour tout un réquisitoire, c'est un point. Il ne faut pas vouloir aborder 50 points, sinon c'est... Mais on se met à la place. Moi, je suis découragé ou ça me met en colère et puis voilà, je ne suis pas en mesure. Mais un point qui nous paraît d'abord important et que l'autre est en mesure de pouvoir comprendre, bon, après on fait comme on peut, mais c'est, ça assainit beaucoup de choses. C'est quand même très très précieux et on vit des beaux moments, des moments exigeants, hein, c'est pas forcément... En un sens, on préférait les éviter parce qu'on aime. C'est des moments. On sait que c'est un moment d'épreuve d'une certaine manière. Hein, c'est parce qu'on le fait pas par plaisir. Tiens, je vais lui.
C'est pas un point pour dire à quelqu'un tu t'en reproches ça. C'est pour le bien de toute la communauté.
Oui, et puis c'est pour le bien de la communauté et de la personne. Et oui, il nous semble que c'est vraiment important. Oui. Après, chacun a nos manières, nos approches. Après, ça dépend de celui qui est en face. On dit un mot, il a déjà tout compris. Où on voulait en venir. Bon, allez, tourne pas autour du pot. Bon, après, ça dépend de... Mais je reviens juste un petit peu en arrière sur les signes de reconnaissance. La correction fraternelle est aussi plus facile... Si c'est sur un fond apaisé, si chaque fois qu'on ouvre la bouche c'est pour faire un reproche, ben, d'avance, vous pouvez être sûr que ça va être rejeté, c'est normal. Quelqu'un disait qu'on avait besoin de 7 paroles positives pour une négative. Alors si on, c'est important pour ça, les signes de reconnaissance. C'est pas pour flatter et tout ça, il faut que ça soit sincère, sinon un signe de reconnaissance, c'est pire que tout, c'est une manipulation. Mais ça prépare quand on... Et parce qu'on le pense, ce qu'on dit en signe de reconnaissance positif, on le pense, sinon il ne faut pas le dire si on ne le pense pas, bien sûr. Sinon c'est... Mais alors, si quotidiennement on distille des signes de reconnaissance positif, c'est beaucoup plus facile de dire un reproche un jour, quelque chose qui est ressenti comme un reproche. Parce qu'on sent que c'est pas, on voit pas que ça, que le mal en nous, on voit aussi tout le bien à côté en nous. Donc c'est comme ça aussi que peut fonctionner la correction fraternelle, je pense. Et pour ça, donc, c'est un ensemble aussi dans notre vie. C'est pas un...